Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et si ça allait mieux, je sais, c'est pas évident de s'en rendre compte, entre les grèves, la grogne, l'arne, le reste, dire de la France qu'elle est autre chose qu'un grand corps malade peut sembler une vue de l'esprit. Et pourtant, si c'était vrai, si l'économie française allait mieux, moins de chômeurs, plus de croissance, bref, après tout, pourquoi le pays serait-il condamné à fermer ? Bonjour Jean Pisani-Ferry, vous êtes économiste, vous êtes commissaire général de France Stratégie, le commissariat général à la stratégie et à la prospective. Je suis en compagnie de Marie Viennot pour dialoguer avec vous. Selon vous, justement, est-ce que ça va mieux ?
C'est difficile de dire que ça va mieux parce que la perception n'est pas celle-là. Et la perception n'est pas celle-là parce que on a la mémoire de toutes ces années derrière nous et on a autour de nous une situation qui n'est pas satisfaisante. Maintenant, si on essaie d'être objectif, parce que le chiffre le plus important, c'est probablement les créations d'emplois. Aujourd'hui, premier trimestre de cette année, par rapport au premier trimestre de l'année dernière, plus 160 000 emplois. Il y a un an, c'est-à-dire premier trimestre de l'année dernière par rapport au premier trimestre de l'année précédente, on était à moins 50 000. Et encore auparavant, on est passé par moins 100, moins 150 000. Donc, on est repassé dans une dynamique de création d'emplois. Ça, c'est robuste parce que ça fait plusieurs trimestres qu'on voit les chiffres s'améliorer. Et ça vient du fait que la croissance s'est réveillée, que nous sommes passés, là encore, de rythme de croissance très faible. En fait, la croissance en Europe s'est cassée à l'été 2011 et on a eu près de 4 ans sans croissance. Bon, et elle s'est réveillée. Les chiffres, là encore, sont cohérents avec ce qu'on se dit sur l'emploi. Donc, on a une dynamique. Ce n'est pas une dynamique très forte. C'est pas à la hauteur de ce que connaissent un certain nombre d'autres économies en Europe. C'est pas à la hauteur de ce qu'ont connu les États-Unis. Ça vient tard, mais indubitablement, il s'est passé quelque chose depuis un an et demi.
Ça vient tard, dites-vous. Mais alors justement, pourquoi la France s'est-elle réveillée plus tard que les autres ? Pourquoi a-t-elle fait la grasse matinée en matière de réveil économique ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, la France fait toujours la grasse matinée en matière de réveil économique. Si vous prenez tous les cycles, la France plonge lentement. Plonge moins vite que les autres et elle se réveille moins vite que les autres. Donc ça, c'est une caractéristique générale. Deuxièmement, on a, dans la zone euro, on a eu une période d'ajustement budgétaire qui a pesé sur la croissance, qui a démarré à peu près au moment où la croissance s'est cassée, c'est-à-dire lorsqu'on a fait le choix en 2010 de dire « ça y est, la reprise est là, la reprise est solide, on peut passer à la consolidation budgétaire », c'est-à-dire la réduction des déficits, et on l'a fait alors que l'économie privée n'était pas assez solide. On a fait une erreur. Et donc ça a pesé sur la croissance pendant jusqu'à ce que la politique budgétaire redevienne à peu près neutre. Alors on a fait l'ajustement, heureusement il est largement derrière nous, mais ça a pesé pendant tout un temps et puis c'est allé mieux. Et puis ensuite il y a eu les bonnes nouvelles qui sont venues sur le front extérieur, le pétrole, le taux de change, les taux d'intérêt de la BCE qui ne sont pas le front extérieur, c'est quand même une décision de politique économique. Donc tout ça a créé un environnement qui a profondément changé. Sur un fonds de compétitivité qui s'était amélioré, puisqu'on avait passé, depuis le début du quinquennat, beaucoup d'efforts à améliorer la compétitivité. Donc ça permettait aussi de mieux profiter de la reprise internationale.
Vous dites qu'il y a donc un certain nombre de causes, des causes extérieures à l'économie française, des causes intérieures. Est-ce que les amortisseurs, est-ce que l'État-providence à la française créer en quelque sorte des mécanismes contracycliques qui vont faire en sorte donc que la reprise soit plus lente et qu'à contrario la crise soit moins forte. Est-ce que c'est le choix finalement qu'on a collectivement fait, Jean Pisani-Ferry, pour amortir les effets mais aussi hélas pour retarder la reprise ou la croissance française ?
Nous avons des amortisseurs sociaux qui sont plus forts que dans un certain nombre d'autres pays. Que ce soit à travers simplement le volume de la protection sociale ou que ce soit à travers des mécanismes plus ciblés. Je pense par exemple au fait que la pauvreté a sensiblement moins augmenté que dans d'autres pays. Ça c'est vrai et c'est une bonne chose. Tout le défi qui est devant nous, c'est comment est-ce qu'on garde ces amortisseurs et comment en même temps on crée un peu plus de dynamisme et de capacité à rebondir.
Autre question qui vient donc après ce constat, qui est finalement un constat plutôt optimiste que celui que vous dressez, est-ce grâce ou à cause...
Plutôt optimisme, il n'enlève rien à une situation qui est ce qu'elle est. Le chômage a diminué, mais il a très faiblement diminué.
Un dynamisme en matière de création
d'emplois. Oui, il y a une réalité qu'il faut reconnaître.
J'ai dit, n'ayez pas peur d'être optimiste.
Non, mais j'ai dit ça va mieux, mais ça ne veut pas dire que ça va bien. Je crois que ça résume les choses. C'est-à-dire, on peut pas, il ne faut pas croire que parce qu'on dit ça va mieux, on peut être satisfait de la situation actuelle.
Je crois qu'on vous a entendu sur ce point. Le gouvernement est-il responsable de cette situation ?
Le gouvernement est en partie responsable de cette situation. En partie, ça vient de la modification de l'environnement extérieur. Alors, il est responsable de cette situation. Je citais ce qui a été fait sur la compétitivité, qui a été un effort très important, collectif. À partir d'une situation très dégradée, effectivement, tout ce qui était CICE, pacte de responsabilité, a visé à redresser cette situation. Je pense que la manière dont l'ajustement budgétaire est conduit depuis quelques années est plus, permet mieux d'accompagner la reprise. On a encore un peu d'ajustement budgétaire en France, mais il est fait de manière plus douce, moins brutale que ce qui avait été fait, encore une fois, entre la séquence, 2011-2013. Ça, c'est une deuxième chose. Ensuite, il y a des mesures qui ont visé, dans certains secteurs, à susciter le dynamisme. Bon, je pense par exemple à la loi Macron, mais ça n'a pas eu des effets macroéconomiques très importants.
Justement,
ça a eu des effets dans certains secteurs significatifs.
Aujourd'hui, grand nombre de gens vont manifester contre la loi travail. Selon vous, cette loi travail peut-elle permettre à l'économie française de renouer avec la croissance ou d'en finir avec ce que certains appellent des rigidités ?
Quand on regarde dans le cadre de notre projet sur les décennies 2017-2027, qui essaie de cadrer un certain nombre d'enjeux pour les choix à venir.
Le projet de France Stratégie, de l'organisme dont vous êtes le commissaire général.
Voilà. Nous avons essayé de faire un bilan sur la question de l'emploi. Nous sommes partis d'une comparaison avec des pays qui font mieux sur trois coordonnées, le chômage, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de la population d'âge actif qui est dans l'emploi, et la qualité de l'emploi mesurée à travers une série d'indicateurs. On est moins bon, mais nettement moins bon, qu'un ensemble de six pays autour de nous, européens, le même type de choix sociaux que nous, sur les trois indicateurs à la fois. C'est-à-dire que je crois qu'il y a le message, c'est la performance collective n'est pas bonne. Parce qu'on peut pas dire, on pourrait dire c'est un choix. On choisit d'avoir un emploi de meilleure qualité, mais on a moins d'emplois, par exemple. Mais c'est pas le cas. On n'a pas un emploi de meilleure qualité, mesuré par la sécurité de l'emploi, la fréquence des contrats atypiques, la qualité des relations sociales, etc. Et on a moins d'emplois, à la fois sur le taux de chômage, puisque autour de nous, il y a beaucoup de pays qui sont à 5% de taux de chômage maintenant. Et sur le niveau d'emploi, le taux d'emploi, on est 10%, plus de 10% en dessous de ces pays de référence.
Marie Viennot, une question à Jean Pisani-Ferry.
Bonjour Monsieur Pisani-Ferry, moi je voulais vous évoquer un peu plus le moyen terme. France Stratégie a publié un rapport sur la classe moyenne en France et aux États-Unis, c'était en février. Donc la classe moyenne s'étiole en France, c'est toujours 67% de la population, mais c'est en baisse depuis 2008. Est-ce qu'il n'y a pas là matière à s'inquiéter ?
Alors d'abord, il faut se comparer, et là je viens de faire une comparaison qui nous est défavorable, sur la classe moyenne, nous sommes partis d'une étude qui avait fait du bruit aux États-Unis, montrant que la classe moyenne se contractait. Hein, on pense toujours aux États-Unis comme le pays de la classe moyenne, et en fait, cette étude montrait que la classe moyenne définie comme les gens qui ont entre deux tiers du revenu médian et deux fois le revenu médian, était passée de, en gros, deux tiers à la moitié de la population. En France, on est toujours aux alentours des deux tiers. Alors, on a eu la crise, a eu effectivement un effet de contraction, mais qui est très limité par rapport à ce qu'on observe aux États-Unis. Donc, c'est aussi les amortisseurs sociaux. La France reste quand même un pays de classe moyenne. Même s'il y a une inquiétude considérable dans la population française sur le déclassement, le sentiment que justement, on ne fait plus partie de la classe moyenne.
On est encore à 67%, mais voilà. On pourra peut-être descendre aussi dans les années qui viennent.
Ce qui est frappant aujourd'hui quand on regarde les perceptions, comment les Français se représentent la société ? Ils se représentent la société pas du tout comme elle est. La France est un pays donc avec une classe moyenne importante, et ils se la représentent comme une pyramide, avec une base très large. Et ce qui est frappant, c'est que les États-Unis se représentent leur société comme une société de classe moyenne, alors qu'elle ne l'est plus. Donc il y a un décalage entre la perception et la réalité statistique qui est très frappant. Et en France, il y a une très grande peur du déclassement aujourd'hui.
Une très grande peur du déclassement, mais aussi une peur qui semble justifiée non seulement par le chômage, mais aussi par un discours sur le pouvoir d'achat et sur ses insuffisances qui remontent à loin, Jean Pisani-Ferry.
Le pouvoir d'achat, inévitablement, nous venons de passer le niveau du PIB par tête de 2007. Donc on a quasiment une décennie sans croissance du pouvoir d'achat. Ça n'était jamais arrivé depuis la guerre. Et avant, depuis la crise des années 30.
Donc, comment expliquer cela ?
Ah ben ça, c'est le choc de la crise financière. C'est la mauvaise gestion collective de cette crise financière en Europe. Et puis aussi, c'est un ralentissement des gains de productivité, de la capacité de croissance, du potentiel de croissance dans la plupart des grandes économies, qui est nouveau et qui n'est pas complètement expliqué. Mais Le fait marquant, c'est vraiment ce choc et la mauvaise réponse collective à ce choc. Donc quand vous avez ça, vous avez inévitablement des effets sur le pouvoir d'achat individuel. Vous pouvez pas avoir une économie qui a pas de croissance et le pouvoir d'achat individuel qui croît. Alors, même si depuis 2 ans, avec la baisse du prix du pétrole, on a eu un réveil du pouvoir d'achat et que ce réveil du pouvoir d'achat s'est rapidement traduit en augmentation de la consommation. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les ménages ont plus confiance, qu'ils ont retrouvé de la capacité de consommer et qu'ils consomment.
Donc ils en ont profité.
Ils en ont profité, mais c'est un phénomène qui date d'il y a 1 an et demi, 2 ans.
Marie Viennot.
Quand vous parlez de mauvaise réponse, c'est quoi ? C'est l'austérité en même temps dans tous les pays de l'Union européenne ? C'est ça la mauvaise réponse qui a été apportée ?
Je crois que l'erreur collective qui a été faite, ça a été de croire que le choc avait été un choc violent mais passager. Et que l'économie était repartie, qu'elle était solide. Et à partir du moment où elle était solide, c'était justifié de dire on a fait un effort de relance en 2008-2009. On va faire un effort dans l'autre sens de consolidation, de réduction des déficits. Sauf que l'économie n'était pas solide. Elle n'était pas solide parce que les systèmes bancaires étaient très fragiles dans un certain nombre de pays. On n'avait pas assaini les systèmes bancaires. On se cachait la vérité sur la situation des systèmes bancaires dans un certain nombre de pays, moins en France d'ailleurs. Et par ailleurs, donc on avait des ménages, des entreprises qui n'étaient pas prêts à dépenser, qui étaient encore très inquiets. Donc on avait une économie privée sans dynamisme. Et quand vous tapez sur une économie privée sans dynamisme, effectivement, elle rechute.
Et alors aujourd'hui, cette situation, elle vous semble assainie, notamment du point de vue des banques ?
Pas complètement. Récemment, on a eu des alertes sur les banques italiennes, mais très largement. Le problème, c'est que quand vous avez plusieurs années sans croissance, vous avez inévitablement des conséquences sur la qualité du crédit. Et donc, vous avez des difficultés. Bon, alors, on a tout de même assainir les systèmes bancaires, recapitaliser, fermer des banques dans un certain nombre de pays. L'Espagne était le grand exemple du pays qui se cachait la réalité. Et bien, l'Espagne a fini par faire son travail sur le traitement de sa crise bancaire. Donc, dans l'ensemble, oui, c'est traité, même s'il reste ici ou là des poches, et notamment ce que je citais sur les alarmes récemment sur certaines banques italiennes.
Jean Pisani-Ferry, depuis que l'on évoque cette situation économique de la France, ou lorsque l'on voit par exemple cette journée de mobilisation aujourd'hui contre la loi de travail, on se dit que la question en France, c'est de savoir si finalement on va conserver ce modèle français ou bien s'il va falloir l'amender. Votre point de vue à ce sujet ?
Le conserver, c'est l'amender. Parce que on ne peut pas conserver le modèle figé dans les structures du XXe siècle. Pour conserver les valeurs qui font notre modèle social, il faut le faire évoluer. Et je pense que la question de l'article 2 de la loi travail est importante.
La hiérarchie des normes, donc la possibilité donc de négocier à l'échelle locale des règles de travail nouvelles.
D'avoir dans la loi les principes auxquels on ne déroge pas et en même temps les dispositions auxquelles on peut déroger directement par des accords d'entreprise. Je pense que la bataille là-dessus, entre ceux qui disent il faut que ce soit la branche et d'autres qui disent il faut que ce soit l'entreprise, c'est très important par rapport à cette évolution. Moi, je ne crois pas qu'on puisse dire la branche, c'est l'économie de demain. La branche, aujourd'hui, c'est l'économie du XXe siècle.
Merci beaucoup, Jean Pisani-Ferry, de nous avoir exposé votre conception de l'économie française. À 8h15, nous serons en compagnie d'un autre économiste, Thomas Coutreau, qui nous apportera plutôt la vision des intérêts par rapport à l'économie française et qui parlera également de sa conception de la loi travail. Il est 7h55 sur France Culture.